du coup, ici, on est toutes et tous étudiants dans des villes qui ne sont pas les nôtres, enfin, pas nos villes d'origine. Du coup, je ne sais pas quels sont vos rapports avec la ville d'où vous venez, quand vous y retournez, ou même si vous y pensez souvent quand vous êtes là.
C'est assez particulier Paris parce que on est nécessairement amené à, enfin nécessairement, très souvent amené à habiter dehors. C'est-à-dire que comme on a généralement des logements qui sont assez petits et impersonnels parce que manque de moyens, on est amené à passer notre quotidien dehors et donc à occuper des lieux qui sont plutôt des lieux de l'espace public plutôt que celui de l'intime, ou du moins qu'on rend intime par l'occupation qu'on en fait.
Ouais, c'est vrai. Ce qui est assez particulier avec Paris, c'est que c'est une évolution. Parce qu'en fait, on se rappelle quand on arrive à Paris, on connaît pas les stations de métro, on connaît rien, on connaît même pas les arrondissements. Maintenant, ça me fascine toujours de voir à quel point j'ai une carte mentale de Paris qui est beaucoup plus précise et qui est de plus en plus. Et après, par rapport à la ville natale, j'y pense souvent, ouais. J'y pense souvent, il y a même une forme d'idéalisation parce qu'au final, quand j'y retourne, je suis un peu déçue, limite.
Ouais, moi aussi. Ouais. Et j'y pense, je pense souvent à d'où je viens. Enfin, d'où je viens. À ma ville quand je suis ici. Et quand j'y suis, je pense souvent à Paris, je me dis que j'ai hâte de rentrer. Du coup, j'ai l'impression d'être toujours dans une ambivalence et de jamais être vraiment fixé quelque part. Du coup, c'est un sentiment qui est assez étrange, enfin, de dire que t'es jamais vraiment chez toi, là où t'es, et qu'il y a toujours une part de toi qui est un peu ailleurs.
Bah, t'es toujours un peu ailleurs et comme tu disais Maëlle, il y a une géographie à Paris, mais il y a aussi un ensemble de d'habitudes que tu prends justement par rapport au lieu que tu fréquentes et qui sont généralement en inadéquation avec la ville d'où tu viens, pour le peu que ce soit une petite ville ou en tout cas que les mœurs y soient différentes. Et il y a toujours cette ambivalence justement, ouais, entre t'as hâte de rentrer chez toi pour, disons, enfin, pas te reconnecter, mais disons, en tout cas être en lien avec l'endroit où t'as grandi, où t'as tout un ensemble de codes qui sont différents. Et puis en même temps, Paris manque assez rapidement, je trouve, puisque personnellement, chez moi, j'ai quasiment plus personne à y voir, puisque les gens sont partis, ni même rien à y faire, donc c'est surtout l'ennui, quoi.
Mais c'est assez marrant ce qu'on dit parce qu'au final, dans le terme d'habitation, d'habiter, il y a quelque chose d'assez fixe qui s'évapore là dans la discussion qu'on est en train d'avoir.
C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement. Le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime dire travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Après amour, toujours, il y a la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piole. Vous êtes sur Radio Piole et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Anna.
Bonjour.
D'Anthony.
Bonjour.
Et de moi-même, Maëlle. Aujourd'hui nous allons nous interroger sur le terme habiter. Qu'est-ce que ça signifie ? Commençons par un point étymologique. Habiter vient de habitare qui signifie avoir souvent ou demeurer. Habitare est un fréquentatif d'habere qui en latin signifie avoir. Donc ça fait déjà signe vers une racine commune de l'habitude et de l'habitation. Généralement, le premier sens d'habiter auquel on pense est celui de la maison, du chez-soi, de la demeure. La demeure apparaît comme une fermeture de l'être au monde, au reste du monde justement, pour pouvoir s'autonomiser et vivre en sécurité. Enfin, je voudrais préciser aussi que habiter a un sens très lié à l'intimité, à la pudeur, puisque habiter avait un sens érotique au Moyen-Âge. Habiter avec quelqu'un signifiait coucher avec quelqu'un. Donc c'est d'abord le premier sens qu'on peut distinguer. Est-ce que vous voyez d'autres sens ?
J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de habiter une demeure, habiter un chez-soi, mais l'habiter se résume pas à la sphère de l'intime, ou du moins pas à la sphère d'un intime fermé. On peut par exemple penser l'habiter de lieux extérieurs, de lieux publics, que l'on fait sien justement par l'habitude que l'on a vis-à-vis d'eux, par la fréquentation qu'on établit, et la création notamment de souvenirs au sein de ces lieux.
Bah, tu parles du souvenir, donc moi ça me fait penser à un peu une dimension plus immatérielle. Est-ce qu'on ne peut pas dire que habiter c'est aussi... une métaphore, donc habité par des souvenirs, mais peut-être aussi être habité par des souvenirs. Je pense que de ce point-là, il y a aussi une tension entre deux,
deux entités qui entrent en contact.
C'est ça, et d'ailleurs, le fait de, que tu parles d'être habité par quelque chose en tant que sujet, ça me fait penser au mot enthousiasme. Parce que ça vient du grec entheo, littéralement être habité par les dieux. Et ça fait penser aussi aux aides de l'Antiquité grecque. En fait, c'était, c'était pas des poètes, c'était des aveugles qui récitaient les poèmes. Et justement, le fait qu'ils n'aient pas la vue faisait signe vers le fait qu'ils avaient la vue de l'esprit, entre guillemets. Et que du coup, les dieux venaient les visiter pour qu'ils puissent parler à la place des dieux. Et donc, en fait, ça fait signe vers une définition d'habiter. Être habité, c'est aussi être occupé par autre chose, par un facteur extérieur. Ça peut être une émotion, des souvenirs, un dieu, même si c'est un peu obsolète. Mais du coup, il y a peut-être une question d'obsession aussi dans le fait d'être habité.
Ah, je pensais plutôt le réceptacle, parce que quand tu dis justement le poète est habité par les dieux, l'aide est habité par les dieux, il sert de point de transition d'une chose à l'autre. Par exemple, ici, quand on pense l'habiter, depuis peut-être notre intimité intérieure, de ce qui relève donc de la sphère du privé, pour reprendre une distinction un peu bergsonienne du moi profond, vis-à-vis d'un moi social, ou du moins de la transparence de ce moi profond, grâce à la médiation de la chose qu'on en habite.
Tout à fait. Donc on peut peut-être déjà dans un premier temps se demander ce que signifie cette fermeture de l'être au monde, pourquoi est-ce qu'en fait on est amené à se bâtir un chez-soi, qu'est-ce que ça signifie être chez-soi.
J'ai l'impression que le fricantatif d'Abéré traduit une dialectique entre l'être et l'avoir, dans le sens où l'on est d'abord, notamment peut-être par le corps, au lieu que l'on habite, que l'on investit, et que l'on possède justement par le rapport qu'on a avec lui. C'est-à-dire que ce lieu-là, dans lequel je me situe, c'est un lieu auquel je peux m'identifier parce que justement je l'ai autant que mon corps.
Oui, tout à fait. Et c'est comme si y avait dans la maison une extension de mon propre corps.
Oui, tout à fait.
C'est le poète John Hull qui en parle. C'est un poète aveugle en fait, et du coup il parle de son rapport à sa maison, et il dit que sa maison était comme une extension de son corps, parce qu'en fait il se déplace dans sa maison en se guidant par le réflexe en fait.
Ouais.
Il évite naturellement le coin de la table et il descend naturellement les escaliers, et c'est comme s'il s'y sentait comme dans le ventre de sa mère en fait, d'une certaine manière. Et il n'y a aucune réflexion dans sa maison. Et le fait qu'il n'y ait pas de réflexion montre aussi que c'est un espace d'abord de sécurité, on peut dire.
Oui, tout à fait. Sécurité qui d'ailleurs peut être menacée. Par exemple, il y a un roman anachronique, c'est Le complot contre l'Amérique de Philip Roth, où justement l'ensemble des familles juives de New York se trouve menacée par la montée au pouvoir de Lindbergh et du fascisme. Et donc en fait, c'est le revirement de tout ce lieu habité, intime, dans lequel on a ses habitudes, dans lequel on a développé tout un ensemble de codes qui sont de l'ordre de l'irréfléchie en fin de compte, qui se trouvent menacés et retournés par la menace. Justement, j'ai l'impression qu'il y a une identité entre celui qui habite et le lieu habité. On habite moins un appartement qui est homologué de manière identique pour chacun, plutôt qu'une maison dans laquelle on peut transparaître, on fait part de ses goûts, on la modèle à notre image. Et donc, il y a l'individu, l'habitant, transparaît dans l'habité.
Oui, il y a une relation formelle entre habitant et habité, en fait,
ouais.
Quasiment. Et même s'il peut y avoir une tension sur le plan philosophique entre être et avoir, il finit par y avoir une identification des deux, du point de vue sociologique. Parce qu'on se détermine aussi dans notre situation géographique, en fait.
Oui.
Où j'habite va me définir sur un plan social, d'une certaine façon.
Ça me fait penser à l'habitat pavillonnaire de Henri Lefebvre, qui travaille sur l'habitat pavillonnaire dans les banlieues, et qui parle du coup d'un modèle bourgeois, d'un mode de vie bien rangé, qui est orienté vers... la possibilité d'appropriation des privatisations de l'espace, qui est symbolisée par la clôture, notamment avec le jardin, puis la maison. Donc il y a une mise à distance aussi du monde extérieur, du voisin, du bruit, de tout ce qui peut, de tout ce qui est étranger à la famille, au cocon, en fait. Mais en même temps, s'il y a cette demeure qui pointe vers quand même l'avoir, il montre aussi que ce coin pour soi, c'est aussi un endroit où... on peut pratiquer des activités, on peut être avec sa famille, on peut aussi développer sa subjectivité et se constituer comme individu.
Tout à fait, ça me fait penser à un chapitre de Chemin qui ne mène nulle part d'Heidegger. Ce chapitre s'appelle Bâtir, habiter et penser. Et il dit justement que... en fait, ça me fait penser à ce que vous disiez tous les deux, parce que tu parlais de création un peu de l'habitation, Anthony, justement pour Heidegger, bâtir et habiter se retrouvent dans une relation de fin et de moyen. On bâtit pour habiter, d'après Heidegger, originellement, et que l'habitation serait le trait fondamental de la condition humaine. Et d'ailleurs, Bauen, en allemand, qui signifie construire, voulait d'abord dire habiter, sens ancien de l'allemand, comme quoi les deux sont intimement liés. Et par rapport à la subjectivité, Lévinas considère aussi que habiter un endroit fermé, enfin une maison, un chez-soi, est une étape de la subjectivité, une étape d'autonomisation avant de s'ouvrir au monde, au reste du monde.
Par rapport à ce que tu disais, Anna, sur la banlieue pavillonnaire, ça m'a rapidement fait penser à cette espèce de modèle en cercle concentrique de Burgess dans les villes américaines, c'est-à-dire tu as un hypercentre très pauvre, et puis en fait, au fur et à mesure que l'on s'en excentre, ce sont des populations de plus en plus riches qui justement se pensent sur le mode de l'individu, avec un jardin très large, encore une fois, pour se distancer quand même du voisinage. Et par rapport à ce que tu dis, Maëlle, sur la subjectivité dans l'habité, justement, j'ai l'impression que le lieu habité est une matérialisation de son habitant. On pense par exemple au narrateur des Carnets du sous-sol qui vit pendant 40 ans dans son sous-sol et qui demeure un peu prostré, justement, qui s'identifie à ce lieu de clôture et d'enfermement sur soi, ou au couple d'Embel du Seigneur qui acquiert une demeure mais qui... s'y enferme, s'autonomise du reste du monde, quand bien même c'est une demeure très ouverte, en fait on sait sur la nature, sur le reste du paysage, donc il s'y enferme, donc comme matérialisation du déclin amoureux, pour ensuite privilégier des lieux de transit, comme par exemple les chambres d'hôtel, où la relation est plutôt scandée par le lieu, plutôt qu'elle ne s'y installe, disons.
Le lieu devient un personnage à part entière.
Oui.
Mais d'ailleurs, Marguerite Duras arrive très bien à illustrer cela dans ses livres. C'est comme dans Le ravissement de Lolvichstein. Lolvichstein devient complètement folle dans sa maison bourgeoise, super carrée, maniaque et tout. En fait, elle finit par incarner la maniaquerie de sa maison. Et elle devient folle.
Mais j'ai l'impression que chez Duras, justement, c'est des hors-lieux. Enfin, il n'y a jamais trop de descriptions, du moins j'en ai l'impression. Là, je pense par exemple à Moderato Cantabile, où on sait que... cette femme et son fils vivent dans une maison à l'extérieur de la ville, mais on ne sait pas vraiment trop où, ni à quoi elle ressemble, on sait juste qu'elle a des baies vitrées. C'est-à-dire, il y a juste, c'est assez marrant parce que les personnages, en tout cas personnellement, je les trouve assez vides.
Ah ouais.
Et le lieu, il est vide dans un espèce de hors-temps.
Du coup, il y a un peu une relation formelle. Si la maison est vide, le personnage est un peu vide aussi, j'ai l'impression.
Ouais, complètement.
C'est qu'il n'y a pas de personnalité du tout, quoi.
C'est vrai, c'est des avatars que tu remplis, en fin de compte.
Même l'autre exemple, dans L'Amant, pareil, elle se retrouve dans des hôtels. En fait, elle est un peu vide d'émotions, de désirs, elle est un peu perdue. Et en fait, les lieux dans lesquels elle se retrouve, elle se sent jamais chez elle, j'ai l'impression.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est des lieux de passage.
Parce que c'est l'internat, c'est l'hôtel.
Ouais.
Une analyse de Marguerite Duras en live. J'adore.
Elle a acheté sa maison en lien avec un vignoble, voilà, si vous voulez savoir.
Ce que tu dis, ce que tu as dit, Anthony, par rapport à l'isolement, ce que vous avez dit par rapport à l'isolement dans la maison, ça me fait penser à la condition de la femme qui est souvent rattachée à l'habitat. Enfin, c'est plus trop le cas aujourd'hui, un peu moins le cas. Mais c'est Simone de Beauvoir, notamment, qui remarque que le rôle de la femme qui doit rester au foyer, qui doit prendre soin de l'intérieur de sa famille, et ben elle reste dans l'immanence, et elle dit qu'en fait elle se transcende vers la société que par son mari. Donc on peut voir ici que être cantonné à l'habitat, c'est une forme une façon d'être dénié de sa subjectivité. Mais par rapport à ça, je trouve qu'il y a la philosophe féministe Camille Froide-Vométhéry qui nuance un peu cette vision des choses et qui dit que aujourd'hui la femme peut aussi choisir une vie domestique de son plein gré et se projeter dans son chez-soi, dans quelque chose qui est fermé, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et comme on l'a dit, c'est aussi une façon de développer sa subjectivité, mais aussi de développer une créativité, de faire vraiment sien un endroit fermé, et de faire que c'est quelque chose de très personnel, et ça peut aussi être quelque chose de positif et qui n'est pas vu de façon péjorative.
Tout à fait. En tout cas, dans tout ce qu'on dit, se dégage une dimension intéressante, je trouve, parce que on a l'impression que tout ça est commun à tout le monde, mais que ce soit par rapport à l'habitat pavillonnaire ou à ce que tu dis, Anna, par rapport à la condition féminine, c'est qu'on n'est pas tous égaux quand même face à l'habitation et au développement de la subjectivité. On n'a pas tous le choix d'habiter une maison et de s'ipséiser et de s'éloigner des voisins. où on n'a pas tous le choix aussi de pouvoir quitter à notre gré, en fait, notre habitat.
Oui, tout à fait.
Enfin, il y a des différences sociologiques qui s'esquissent presque systématiquement. Donc c'est pour ça que Heidegger, il est, il est un peu limitant hein, par rapport à ça, parce que quand il dit que l'habitat est le primat de la condition humaine, peut-être, mais en tout cas, pas de la même façon pour tout le monde, quoi.
Oui, mais mettons, tu parlais de Simone de Beauvoir, justement, dans ses mémoires, dans le deuxième tome, elle dit bien que certes, elle peut aller, mettons, au dôme, au café, etc., pour écrire, pour lire, pour travailler... mais que c'est pas le cas de tout le monde et elle compare justement dans tous ses voyages par exemple en Italie aux ouvriers au monde ouvrier, en fait elle dit mais il y a bien des conditions matérielles qui empêchent à toutes les femmes, alors certes de mener le même combat que moi mais en plus de même le penser.
Ouais.
Il y a un article de Raphaël Erzam, donc Liberté située et sens du monde, qui compare deux ontologies, celle de Beauvoir et celle de Merleau-Ponty, donc ontologie phénoménologique. Et dans cet article-là, il rappelle que justement l'expérience que fait Beauvoir et dont elle témoigne, c'est l'expérience d'un corps qui est sexué et donc qui a des rapports à l'espace différents. Elle-même, par exemple, s'étonne de voir la femme de Michel Léris au foyer et a des amis qui, quant à elle, relèvent du monde du théâtre, beaucoup plus libres. Donc en fait, elle est toujours en cette articulation, en ce carrefour entre la vie domestique et puis, par exemple, elle s'étonne encore une fois de recevoir des gens chez elle et de faire la cuisine. Et l'occupation extérieure. Et cette occupation extérieure-là, j'ai l'impression que c'est, en tout cas dans une conception plutôt merleau-pontienne, quelque chose d'universel, dans le sens où on est au monde par notre corps, ce corps-là c'est un corps non pas sexué mais un corps humain, et qu'importe en fait le rapport qu'on a avec, du moment que justement il y a co-création du sens à la fois par le monde et par l'individu qui y habite, qui s'y situe, à ce moment-là on peut penser un habité de lieu extérieur.
Tout à fait, moi ça me fait penser au concept contemporain d'agentivité spatiale qui désigne la capacité à se mouvoir avec pour fin de réaliser des possibilités. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au monde comme ensemble de potentialités qu'on réalise ou qu'on réalise pas.
Ouais.
Et en fait, quand on regarde de plus près, enfin quand on s'analyse nous-mêmes, en fait, tout ce qu'on fait dans une journée, c'est réaliser des possibilités qui nous semblent signifiantes parce que utiles et réalisables. Je vais prendre un café à la boulangerie parce que ça va me réveiller, par exemple. Et en fait, tout ce qu'on fait, aller prendre le métro, aller au travail, venir faire un podcast un jeudi matin parce qu'on a le temps, c'est réaliser un certain nombre de possibilités. Mais ça fait signe aussi vers des capacités physiques, donc. Et ce qu'on dit, donc, pour mettre ça en lien avec le fait d'habiter des espaces extérieurs, me fait penser aussi à la théorie contemporaine du scaffolding, qui veut dire échafauder en anglais. Et c'est les philosophes Kruger et Colombetti qui le théorisent dans plusieurs articles, en fait. Et scaffolding, du coup, ça signifie échafauder des niches affectives. Donc, en fait, les niches affectives, c'est d'abord notre chez-soi. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait de créer un chez-soi, son image. C'est déjà un peu une niche affective. Mais les niches affectives, elles peuvent aussi se retrouver à l'extérieur. Ce studio d'enregistrement, ça fait plaisir de s'y retrouver, ça nous régule, ça nous rend heureux. Par exemple, c'est un peu une niche affective en elle-même. Ou même, si on a l'habitude d'aller courir dans tel parc pour réguler notre vie affective, ça va devenir une niche aussi. Donc, ça rappelle aussi la racine commune entre habitude et habité, en fait. Une niche affective, c'est au final un ensemble de possibilités que j'ai l'habitude de réaliser pour me réguler et me faire du bien.
Mais est-ce que tu peux pas justement habiter sans pour autant avoir une notion d'habitude et considérer la relation que tu as avec une situation immédiate ? Alors éventuellement, est-ce qu'elle se déploie ensuite dans le temps et est-ce qu'elle perdure ? Mais par exemple, tu dépends toujours d'un hic et nunc. Et donc, tu habites toujours un point de l'espace et du temps, tu es toujours situé, localisé. Et ensuite, peut-être envisager l'habitude, mais est-ce que tu penses que tu peux habiter l'instant ? Quand tu dis que tu habites, mettons, est-ce que là on habite le studio parce que justement par notre présence, parce qu'on y est, parce qu'on agit à l'intérieur de ce studio ?
Oui, mais parce qu'on en a aussi le souvenir
ouais. Du
studio. Au final, je pense, mais c'est débattable, je pense que le souvenir est déjà dans la perception qu'on a du studio.
Oui, tout à fait.
Tu vois, nous, ça fait plus d'un an qu'on vient ici pour faire des podcasts, ben, du coup, il y a une question, enfin, il y a limite une familiarité qui s'instaure que par le souvenir. Même si là, on dépend d'un Ikenunke et qu'on est en train d'enregistrer, sinon on ne pourrait pas dire qu'on habite ce studio.
Oui, tout à fait.
Mais j'ai l'impression que ces instantanéités se cumulent d'une certaine façon et se rappellent les unes les autres.
Parce que mettons, on se retrouve à la boulangerie, on sait que cette boulangerie, elle est en face, on y a déjà été, ça fait plaisir de s'y retrouver. Enfin, c'est limite drôle, parce qu'en fin de compte, on y est tous allés indépendamment des autres et on s'y est tous retrouvés, quoi.
C'est ça. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de perception pur de tout souvenir quand on vient ici.
Ouais.
En vrai. Et d'ailleurs, quand il y a une perception vierge de souvenirs et d'habitudes, ben, on ne se sent pas habiter l'endroit.
Mais...
Il y a même une limite. Enfin, je me rappelle très bien, on reste sur l'exemple du studio, mais après, une fois que je suis venue ici, je découvrais tout. C'était mon premier podcast, j'étais là en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Et je n'allais pas me dire qu'un jour j'allais me sentir à l'aise ici. Parce que c'était la première fois, donc tu penses à trop de trucs en même temps pour te dire que j'habite l'instant.
Tandis que maintenant, les lieux sont matériellement marqués par nous. On a nos tailles, mettons.
Ouais, ouais. On a écrit sur le mur. Hein.
Bah, c'est marrant parce que moi, du coup, je suis là depuis moins longtemps que vous. Et je pense que c'est marrant de se dire que là, on est tous au même endroit, au même moment, et on a un rapport différent.
Ouais.
Moi, je me sens pas, je pense, autant à l'aise que vous. Et j'ai peut-être pas le même rapport d'habitation, finalement, dans ce studio. Du coup, c'est marrant de se dire que, en fait, les espaces collectifs sont toujours investis de tellement de perceptions différentes qui sont matérialisées par nos corps, et on a tous une façon à nous de les habiter, et donc il y a un peu plusieurs couches à chaque fois dans le même endroit, au même moment.
Oui, tout à fait.
Mais est-ce que justement par cet habitat, il n'y a pas un habitus qui se développe quant au lieu? Justement, par exemple, le fait de fréquenter au fur et à mesure un lieu, alors peut-être qu'il y a un habitus, c'est-à-dire un habitus, c'est un ensemble de normes qu'on incorpore, qui soit nous est antérieur, et donc qu'on incorpore par la suite, par fréquentation du lieu, ou bien qu'on développe nous-mêmes par justement le rapport qu'on entretient vis-à-vis de cet espace. Par exemple, à la Sorbonne, si tu regardes les gens l'habiter, ben, ça se traduit par un style vestimentaire assez particulier, un peu professoral, tout ça. Tu vas changer, mettons, de lieu, de profession, de discipline, tout ça. À chaque fois, il va y avoir un ensemble de normes qui vont être intériorisées de manière différente et d'occuper l'espace différemment aussi.
Oui, bah déjà le fait d'arriver à Paris. Hein. Je sais pas, même en fonction de la ville où tu habites. Paris, c'est vraiment un exemple intéressant, je trouve, parce que c'est une ville particulière et une ville marquée, avec un style. Je sais pas, peut-être que vous habillez pas exactement pareil que quand vous êtes arrivé à Paris au tout début. Peut-être que on développe aussi des habitudes de Parisiens.
Oui, mais complètement.
En fait, c'est marrant parce qu'il y a une relation. C'est pas comme si les lieux étaient inertes et qu'on en faisait ce qu'on voulait, quoi. C'est, il y a vraiment une circularité entre le lieu et le sujet.
Ça me fait penser au concept de Foucault d'hétérotopie. Donc l'hétérotopie, c'est un endroit qui est en rapport avec tous les autres, mais où il y a des rapports donc entre les personnes qui sont différents, qui sont soit neutralisés ou inversés par rapport à d'autres endroits. Bah, Foucault, il prend par exemple le cimetière ou les maisons de retraite, les cinémas où tout de suite les gens vont chuchoter. Enfin, chaque lieu en fait appelle à ses propres règles et mais pourtant ils sont ancrés dans un espace plus collectif.
Vous allez écouter Jimmy de Moriarty.
Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. Thank you. to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember, you're
d'écouter Jimmy de Moriarty. Tu longes le 5, 6, 7. Dans le 5e, tu vas avoir un style estudiantin. Voilà. Et au fur et à mesure que ça s'embourgeoise et que ça vieillit, tout simplement, ben, tu vas avoir des styles vestimentaires différents, des habitudes différentes. Tu vas avoir des gens avec des... Mettons, rue de Rennes, avec toutes les boutiques plus ou moins de luxe, ben, tu vas avoir des gens à chaque fois avec des habitudes, des codes assez différents. C'est marrant parce que ces codes, j'ai l'impression qu'on peut quand même les subvertir ou les changer, c'est-à-dire par leur incorporation, mettons, en pensée la modification. Par exemple, Jeunet qui se fait interner, bah, lui-même prend les codes du milieu carcéral et puis ensuite est un peu comme un poisson dans l'eau une fois qu'il s'y développe. Ou même, mettons, la distinction des corps, le corps homo, le corps noir, le corps féminin, masculin, tout ça, à chaque fois, c'est des géographies différentes, ouais. J'ai l'impression.
Mais c'est pour ça qu'il y a quand même une tension, au final, parce qu'on parle d'habiter des espaces extérieurs, des espaces qu'on s'approprie, mais ça reste pas à nous. Oui. C'est un espace public, et du coup, il peut y avoir conflit entre normes et volonté, au final.
Tout à fait.
Et donc là, on peut clairement parler de politique publique, hein, en vrai. Et comment est-ce qu'on se partage l'espace entre nous, et ça peut donner lieu à des conflits, certainement. Notamment parce que des conflits de sensibilité, en fait, parce que... Je parlais d'agentivité spatiale et toi, tu parlais des différents types de corps. Mais en fait, en fonction du type de corps dont on dispose, on ne peut pas aller partout. On ne peut pas réaliser les mêmes possibilités que les autres. Et donc, il n'y a pas vraiment d'égalité, en fait. C'est un peu comme ce qu'on disait par rapport au fait que, au final, même dans le fait d'habiter un chez soi, on n'est pas tous égaux. Mais là, c'est exactement pareil par rapport à l'espace public normé.
Oui.
C'est... En fait, Je pense que l'agentivité spatiale d'un individu, elle est maximale quand il remplit un certain nombre de critères et qu'il peut tout faire, quoi. Par exemple, quelqu'un qui vit en fauteuil roulant à Paris va rencontrer énormément de difficultés parce qu'il n'y a pas d'ascenseur dans la plupart des bouches de métro et qu'il n'y en aura pas dans la plupart des immeubles qui sont classés au patrimoine. Donc en fait, à partir du moment où ton agentivité spatiale elle est réduite, tu te sens aussi un peu moins chez toi.
Oui, l'espace public lui devient hostile.
C'est ça.
Peut-être que le chez-soi lui est d'autant plus intime puisque c'est un lieu de moindre angoisse.
Oui, c'est ça, parce qu'on disait par rapport au chez-soi, la demeure, que c'est un endroit, au final, comme c'est une extension de mon corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon agentivité spatiale, elle est maximale.
Ouais.
Je peux me déplacer sans problème. Mais en fait, quand tu rencontres des difficultés à te déplacer dans une ville, tu ressentiras pas la même impression d'être chez-soi que les autres qui peuvent se déplacer normalement.
Mettons, alors au-delà peut-être du corps, le fait d'habiter de manière transitoire, t'as pas le même rapport au lieu, par exemple, t'es pas la boulangère de quartier, t'es pas un gosse qui grandit là et qui va jouer tous les jours, etc., qui grandit sur ce lieu-là. Et par conséquent, en fait, l'espace, enfin, il y a toujours cette distinction, tu te sens jamais, tu peux jamais vraiment trop t'y identifier, en fin de compte. Et je pense que c'est assez intéressant parce que le chez-soi demeure ultimement, alors peut-être pas en présence, mais du moins en souvenir, mettons lorsqu'on est dans un lieu de passage, le lieu véritable de l'habiter. Du moins, j'en ai l'impression.
Oui, tu sens un peu extérieur aux habitants du quartier en question. Ouais.
Et là, j'ai l'impression qu'il y a un rapport qui est vachement centré sur la personne, mais je pense que surtout à notre époque, et ça va être de pire en pire, il y a aussi... le fait que les milieux sont détruits du fait du réchauffement climatique, du fait de plein de choses, bah on le voit là en ce moment à Los Angeles, les gens n'ont plus d'habitat finalement et parfois il y a des milieux qui ne peuvent plus être habités de façon, bon, j'ai pas envie de dire naturelle, mais de façon...
Genre leur habitat est mis en péril pour des raisons...
Ouais c'est ça, bah, je pense par exemple... à Malcolm Ferdinand qui parle de l'habité coloniale et qui instaure en fait une fracture entre le milieu et les humains qui y vivent, donc souvent les colonisés qui se font approprier leurs terres et souvent, très souvent détruire leurs terres aussi par les colons. Donc il y a un rapport utilitaire et instrumental à la terre qui en fait coupe le lien qui pourrait être affectif et presque identitaire d'un peuple, de personnes à leur terre.
En fait, on pourrait transposer Von Uxkull, qui était s'est intéressé à la distinction entre habiter un monde et vivre dans un milieu. Oui. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que l'animal est réduit à son milieu. Mettons, le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, donc il est réduit au milieu aquatique. Et l'homme peut occuper tous les milieux par leur modification. Mais en fait, on remarque que l'homme occupe quand même un espace particulier. Enfin, certes, il peut tous les occuper en termes de potentialité, mais en choisit un. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est de plus en plus contredit par tout simplement le changement des modes de vie. Mettons, avant, c'était des gens qui bâtissaient leur propre maison et puis qui s'y établissaient. Alors que maintenant, avec la possibilité, mettons, de déménager, de changer de job, d'être muté sur les quatre coins de la planète, en fin de compte, il y a de moins en moins de permanence du lieu qu'on habite.
Il y a plus de mobilité et du coup, peut-être que ça change notre rapport aussi à l'habiter et au milieu qu'autrefois, des gens pouvaient vraiment connaître très très bien.
Oui, c'est ça. On est plutôt dans une découverte à chaque fois constante.
On a beaucoup parlé de la notion d'identité dans l'habité. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut aussi avoir en tête que ça peut parfois être un peu instrumentalisé par l'extrême droite ou par des courants nationalistes qui vont, par exemple, mettre en question le droit du sol pour des personnes étrangères et dire qu'habiter un endroit ne suffit pas, mais qu'il faut aussi avoir, par exemple, des attaches ancestrales et culturelles et vraiment identitaires. Et je pense que de ce point de vue-là, ça peut être un petit peu dangereux et c'est un peu excluant, finalement.
C'est vrai que c'est une limite du concept, en fait, parce que une dimension très importante du terme d'habiter, que ce soit chez nous ou à l'extérieur, c'est la sécurité. Et en fait, c'est leur maître mot pour parler d'immigration.
Oui, parce que en fait, à l'habiter s'oppose l'exil. Or, à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on habite quelque chose ? C'est-à-dire, quand est la limite entre l'habiter de manière transitoire et l'habiter définitif ? Enfin, j'ai l'impression que ça soulève cette question-là, puisque si on dit, mettons, des populations réfugiées qui se voient privées de leur lieu d'habiter premier et doivent en investir un second, en fait, à partir de quand peuvent-elles dire ça y est, maintenant nous nous identifions de nouveau ? Et justement, quels sont les obstacles à cette identification ?
Il y a d'abord une question temporelle, à mon avis. D'abord, une question temporelle de la personne, une fois qu'elle arrive en France, s'approprier l'appartement de fonction qu'on lui donne. Mais après, le grand obstacle, ce sera l'extérieur, oui, les autres. Et en fait, une personne réfugiée, si elle n'est pas bien accueillie dans sa ville ou dans son pays, elle ne pourra jamais se sentir chez elle. Et je pense qu'il y a encore bon nombre de personnes qui ressentent ça en France.
Et du coup, est-ce qu'on peut dire que habiter, c'est forcément habiter un lieu, ou est-ce qu'on peut habiter aussi quelque chose de plus, quelque chose d'immatériel ? Est-ce qu'on peut penser habiter comme une métaphore qui implique soi-même, mais qui n'implique pas forcément un lieu, quelque chose où juste on se sent chez nous, on se sent à l'aise, mais ouais, qui n'est pas matériel ?
Je pense tout à fait, puisque c'est par exemple le souvenir de la patrie, de laquelle on est exilé, c'est le souvenir du lieu où on a justement beaucoup de moments passés, qu'on a investi. Donc tout ça, en fait, c'est la mobilisation par la mémoire et par le souvenir, justement, d'un habité qui est plutôt intemporel quant à lui, qui ne se fait pas dans l'instant et qui, justement, peut être réactualisé au fur et à mesure selon la sensibilité de l'individu, quoi.
Ouais, puis une dimension nostalgique, du coup, là, dans tout ça, au final. Quand on est habité par les souvenirs d'un lieu passé ou d'une relation passée,
ouais,
une question de nostalgie. Mais est-ce que cette nostalgie, elle n'est pas liée au fait que les possibilités sont plus réalisables dans cet habité-là ?
Oui, mettons, Proust est nostalgique de l'hôtel de... Bon, l'équivalent de la ville normande, là. Bon.
J'ai oublié.
Balbec.
Ah oui.
Et donc voilà, mettons Proust est nostalgique de l'hôtel de Balbec parce qu'il y avait ses rituels avec sa grand-mère. Une fois la grand-mère morte, difficile de les reproduire. Et de même, il avait cette particularité, ce rapport avec la lumière, au fait de voir l'océan, au fait de ne pas avoir trop de lumière, donc de tirer les rideaux, tout ça. Bon, et en fin de compte, les suivants n'auront jamais cet ensemble de rituels, cet ensemble d'habitudes qu'il a pu y développer. Et donc il en garde un souvenir qui est trop lointain pour être rejoué. Pourtant, on peut se demander si le souvenir permet véritablement l'habiter. Mettons, il y a un personnage de Simone de Beauvoir dans Tous les hommes sont mortels, Raymond Fosca, qui naît au XIIIe siècle, mais qui acquiert l'immortalité. Et donc, il traverse tout un ensemble de lieux à travers toutes les époques qu'il habite, mais justement, il n'adhère à aucun de ces lieux par le caractère transitoire de son existence même. Il a la certitude d'un toujours demain, il sait qu'il ne sera jamais en fait privé, et d'où une transtemporalité et une non-adhésion. Et donc, on se demande, mais que sauve la mémoire, et est-ce qu'il a jamais habité ces lieux, ou bien ceci l'habite-t-il davantage par le souvenir, aussi vague soit-il, qu'il peut en avoir?
Du coup, là, tu parles d'un espace-temps qui serait un peu différent. Ça me fait penser à Pierre Musso qui parle de cyberspace et qui s'interroge sur les modalités de l'habiter de cet espace, si on peut vraiment l'habiter, parce que c'est un espace qui est en construction. Ça fait pas longtemps que le numérique existe et qu'on peut vraiment l'investir. Mais c'est des espaces qui sont assez particuliers parce que ça abolit les distances, ça abolit aussi le temps pour parler à quelqu'un qui est loin. Il n'y a plus cette attente. Donc ça brouille un peu nos rapports qu'on a au territoire traditionnel et ça influence, on peut se demander si ça influence aussi nos manières d'habiter dans l'espace matériel.
Oui, parce qu'en fin de compte, on a dit qu'on habitait deux espaces matériels différents, que sont la maison et l'espace public. Mais là, en fait, on remarque qu'on peut aussi bien habiter par ses souvenirs ou habiter ses souvenirs. On peut habiter l'espace cyber, enfin le cyberspace, qui justement est encore une fois dématérialisé.
On peut habiter son corps, en fait.
Exactement. Et on peut même habiter, on pense, peut-être la langue. Mm. Par exemple, Kafka dit qu'il est étranger dans la langue allemande. Donc, y a un sentiment d'étrangeté vis-à-vis de soi à soi. Et peut-être que justement, l'impossibilité d'habiter, elle se traduit par des espèces d'épreuves de l'étranger pour ensuite un retour au même. Par exemple, dans la métamorphose, la transformation en cafard permet de fuir le père, permet de fuir en fait tout ce qu'il représente, hein, les métiers de bureau, l'administration, tout ça. Et c'est un habité, on avait dit qu'il y avait une ipséisation par rapport à la maison, bah là c'est l'ipséisation totale puisque lorsque la créature s'exprime, le gérant dit « l'as-tu entendu parler ?» c'était une voix d'animal. Donc en fin de compte, cet habité-là, c'est un habité qui est plus... qui se fait selon la particularité... là c'est un corps différent qui habite un espace différent... qui d'ailleurs relève encore une fois d'un imaginaire propre.
Donc là, il habite un peu son imagination.
Oui.
C'est ça.
Moi, j'en ai l'impression.
Mais d'ailleurs, il y a une notion d'imagination aussi quand on parle de ses amis ou des relations qui peuvent être qui peuvent relever de l'habitation quand on est avec ces personnes-là. Mm-hmm. Je parlais de ça avec une amie il y a pas très longtemps. On se baladait à Lyon et on se disait, mais en fait, quand on est l'une avec l'autre, on a l'impression d'être dans une maison qui nous appartient. Enfin, c'est un peu l'impression d'être chez nous, l'une avec l'autre, peu importe où on se trouve au final.
Oui.
Mais ça, c'est purement l'imagination, mais ça montre que tu peux te sentir aussi en sécurité avec quelqu'un. Et là, certainement que le personnage de Kafka se sent plus en sécurité en tant que cafard et en échappant à ses responsabilités qu'en étant lui-même.
Oui, parce que...
l'imagination devient refuge, en fait.
Oui, tu étends l'espèce d'autonomie, par exemple, que tu fais avec ton ami ou avec ton imagination, au lieu que tu habites et que t'investis. Et à partir de ce moment-là, la sécurité et l'intime, en fait, est transposable, qu'importe où.
Vous venez d'écouter Radio Pium, diffusé un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. C'était Anthony Dominici, Anna Le Guar-Misguez et moi-même, Maëlle Bouvray. Si vous avez des questions ou des propositions de thèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail opium.radiopium@gmail.com. Merci de nous avoir écoutés et à dans un mois.